Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pardon My Surf, le podcast. Pour ce deuxième épisode, l'objectif c'était avec Tessa Tissel. On continue de suivre la saison des Challenger Series de Tessa et sa quête de qualification pour le Championship Tour. La troisième épreuve à Balito a eu lieu du 1er au 8 juillet. Donc c'est maintenant parti pour le débrief de la compétition en compagnie de Tessa qui revient d'Afrique du Sud avec une troisième place et une belle remontée au classement général.
Here we go.
Tessa Thiessen from the French Caribbean.
First wave of the final.
Rich, beautiful water angle here of Tessa Thiessen's opening ride.
Yeah, another one of the goofy footers here. Jams around.
Bigger size wave for Tessa. And a strong finish too.
Welcome to the jungle, baby.
Bonjour Tessa. Comment est-ce que tu vas après cette très belle troisième place à Balito?
Salut, pardon ma surf, merci beaucoup. Ça fait du bien, honnêtement, ça fait vraiment du bien, notamment pour la confiance. On passe vraiment par plein de d'états émotionnels dans la carrière. Et là, franchement, je me nourris de ce résultat et de tous ces tours que j'ai pu passer. Donc, ça fait vraiment du bien.
Du coup, on va revenir un petit peu en arrière. On s'était quitté début juin sur le podcast précédent, donc entre la compétition en Australie, à Narrabeen et celle de Balito. Donc comment tu as occupé ton mois de juin et comment s'est passé l'avant-compétition?
En toute transparence, le mois de juin en France, il n'a pas été terrible du tout. Hein. Donc c'était très dur de... d'avoir un mindset à 100% game on ou préparation parce que tout simplement il n'y avait pas de vagues ou très peu et c'était dur de retrouver du coup dans l'entraînement du plaisir et trouver un bon équilibre pour être 100% entre guillemets prête. Donc franchement c'était pas un mois facile pour moi personnellement et mentalement, émotionnellement. Donc vraiment je suis arrivée sur la compétition du Balito Pro en me disant on verra bien quoi.
A few moments later.
Oui, donc c'est mystère c'est un coupé montage, hein. C'est mystère du premier tour, donc t'as encore dû passer le premier tour et t'as encore dû sortir la vague qu'il fallait au moment où il fallait. C'est-à-dire qu'à la fin de jusqu'à 2 minutes de la fin, t'étais troisième et t'as réussi à choper un 5.33, j'ai noté, pour passer deuxième et te qualifier in extremis pour ce deuxième tour. Là, c'est quoi? C'est encore une fois le rien lâcher.
Moi, je pense qu'il faut toujours avoir ce mindset de rien lâcher et de se dire, une vague, on peut changer tout le cours d'une série. Et par rapport au fait qu'il y ait un premier tour, un deuxième tour, c'est vrai que c'est toujours une incompréhension. J'en ai parlé avec Yolanda Hopkins qui est un peu qui est carrément dans la même situation que moi, où est-ce qu'on comprend pas trop pourquoi on est au premier tour. Elle, ça lui a été fatal, elle est pas passée. Et moi j'ai réussi à sortir mon épingle dans les dernières minutes une fois de plus. C'est juste pour faire un peu plus stresser mon coach qui est un peu trop détendu sur la plage.
J'imagine. Et toi du coup, quand t'es dans ce genre de situation, comment t'appréhendes toi, parce que donc on vous annonce les scores depuis la plage. Tu sais la position dans laquelle t'es, tu sais le temps qui te reste. Comment cette partie-là, tu la gères avec toutes les informations que tu reçois et en même temps les informations de se projeter sur une vague?
L'objectif dans cette situation-là, c'est vraiment de rester un maximum lucide pour pouvoir évaluer la situation, savoir qu'est-ce que ce score-là il vaut réellement. Est-ce qu'on va être à la recherche d'un 5 points ou plutôt d'un 8 points? Ce sera pas du tout la même stratégie ou même la même prise de risque. L'idéal pour moi, c'est de rester lucide, tête froide un maximum, me focaliser sur moi, sur est-ce que j'ai la priorité ou pas. Si j'ai la priorité, je peux vraiment me laisser le choix d'attendre et de voir si ce qui m'est offert en termes de vague. Et essayer de faire le job en fonction du temps qui reste. Parfois, on attend, et finalement, il n'y a pas de vague qui arrive. Donc, c'est aussi l'océan qui joue un peu sa part aussi.
Est-ce que tu es du genre, par rapport à ce genre de situation, à essayer de prendre la première vague qui viendrait ou comme tu viens de le dire, à attendre, quitte à rien avoir.
Honnêtement, je suis plutôt, j'aime beaucoup être active, même en free surf ou en compétition. Voilà, j'aime avoir du rythme, j'aime prendre des vagues et souvent, c'est pas forcément des bonnes vagues, mais en fait, j'aime bien juste être active. Donc parfois, j'arrive à transformer les vagues et en faire des bons scores et parfois, je prends juste des vagues pourries tout au long de la session, mais bon, c'est comme ça.
Et donc après la compétition continue, tu passes les tours suivants et tu arrives en quart de finale contre Sally Fitzgibbon, donc qui est une ancienne pensionnaire du CT plutôt solide et qui t'avait battu à Narrabeen. Du coup, comment t'abordes cette série et comment ça s'est passé pour toi, sachant que dans la série tu lâches, je crois, c'est le plus gros score de la compétition. Tu fais un 7. Ça doit.
Alors, c'est pas du tout le plus gros score de la compète. Il me semble qu'il y a eu.
Je disais le tien. Ton score à toi, non? C'est pas ton plus gros score, ce 7?
Ah, je sais plus, honnêtement. Peut-être.
Il me semble.
Cette fois-ci, pour en tout cas, son quart contre Sally, c'est vrai qu'elle m'avait battu en man-on-man en huitième de finale à Snapper, premièrement. et aussi, elle est passée dans un autre tour Narrabeen contre moi. Donc, j'avais forcément une petite revanche à prendre, mais j'avais pas du tout ça en tête. J'étais plutôt excitée à l'idée de me dire « Ah, je suis en quart, let's go, je suis motivée ». Plutôt que oh, je suis contre Sally, il faut absolument que je la batte. Donc je pense que c'est plutôt cool de prendre du recul et de voir que finalement je me suis concentrée sur moi-même en fait, et ça m'a permis de pouvoir prendre mes vagues et me focaliser sur mon surf, parce que voilà, dès les premières minutes elle a réussi à, forcément c'est Sally, à scorer un 6, un 5, voilà, elle a commencé à direct me mettre des scores en pleine figure, j'étais là genre pa 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 pa, mais bon, j'ai réussi finalement à enfin faire un vrai turn pour moi. Petit à petit dans la compétition j'augmentais mon niveau, enfin je faisais vraiment évoluer mon surf chaque tour que je passais, donc c'était intéressant à voir. Mais et là, je me suis vraiment sentie bien sur ce turn qui a été scoré de 7 points. Ça fait plaisir. Et aussi, c'est vraiment une satisfaction de quand tu as envie de t'exprimer et enfin il y a au moins un turn que tu sais que tu le fais vraiment bien et de manière agressive et tout, et ça score derrière, donc c'est vraiment très satisfaisant.
Et on a senti, et tu viens de l'exprimer, une montée en puissance pendant la compétition. Est-ce que tu expliques ça, est-ce que tu mets ça en relation avec le fait qu'au mois de juin, tu n'as peut-être pas pu trop surfer dans des bonnes conditions, du coup que tu as mis un peu de temps à trouver du rythme, et après, une fois qu'il y a eu un peu de rythme, d'enchaînement de compétition, tu as commencé à prendre confiance et peut-être mieux appréhender la vague aussi?
Je pense totalement que ça a à voir avec le fait de comment je suis arrivée à Balito. C'est vrai que voilà, le mois de juin c'était compliqué. Je suis arrivée à Balito et je faisais pas un bon free surf de la semaine d'ailleurs. Que ce soit les jours où je suis arrivée juste avant, j'arrivais pas à faire un turn littéralement. Hein. J'allais dans l'eau, je me sentais oppressée, je me sentais pas à ma place, j'arrivais pas à m'imposer ou même à m'exprimer. C'était très frustrant. Mais en même temps, c'est le mois de juin techniquement que j'ai vécu aussi. Donc je voulais juste être tranquille en fait, je voulais juste qu'on me laisse tranquille et le fait d'arriver comme ça sur une compète sans trop d'attente et sans trop de pression en fait, ça m'a permis de, dans la compétition, vraiment me focaliser sur qu'est-ce que je dois faire. Et c'est vrai que les premiers tours c'est toujours un peu stressant, on a envie de passer ce fameux premier tour qui est le pire je pense, parce que tu stresses, t'as envie de passer, t'as envie de, voilà, c'est le premier tour quoi, donc t'as envie de faire quelque chose. Mais j'ai bien noté dans mon cahier en fait que quand je suis arrivée le tout premier jour, j'ai écrit redécouverte. Donc on en était là, c'est redécouverte. Donc je voulais juste pas me prendre la tête et petit à petit redécouvrir des bonnes sensations, redécouvrir la compétition, le surf en lui-même, même si c'est peut-être pas censé, mais voilà, c'était mon état d'esprit dans le moment.
Et donc, à la suite de la compétition, donc, tu arrives en demi-finale et tu perds de pas beaucoup contre la future vainqueur Bella Kenworthy. Je me suis toujours demandé par rapport à des sportifs, est-ce que perdre face au futur vainqueur, ça atténue un peu la déception ou au contraire, on se dit que ça, on aurait pu être à sa place?
Bah, je pense que tu viens de résumer les deux sentiments qu'on ressent. Voilà. On se dit, bon, bah, au moins, elle a gagné. Et en même temps, bon, bah, vas-y, ça aurait pu être moi, quoi. Donc, ça passe, mais ça passe pas si bien que ça, finalement. Voilà. On est compétiteur, on n'a pas envie de perdre. Sinon, on serait pas là, quoi. Après, je suis consciente, je vois un peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Pour en arriver là, c'est dommage parce que c'était serré malgré mon état émotionnel, mental et physique. Donc c'est frustrant parce que tu dis ah, tu étais presque, mais en même temps tu dis ah, bah si j'aurais bien géré, si j'avais bien géré la chose, bah, j'aurais pu passer, je veux pas dire tranquille, mais j'aurais pu passer quoi.
No, God, please, no!
Mais on est quand même sur une très bonne troisième place pour toi. Est-ce que tu arrives à positiver
Oui.
cette troisième place?
Bah, dans ma tête, j'arrivais déjà à positiver dès le stade d'écart. En me disant, c'est cool, bon, c'est cool. C'est déjà un keeper dans l'année. À partir d'écart, ça devient un keeper. Donc, à partir d'écart, c'est du bonus pour gratter un peu plus de points, pour me mettre dans une situation la plus confortable possible. Et voilà, arriver en demi, c'est un bon résultat, c'est un keeper. Mais tu restes quand même sur ta faim, donc ça donne envie, ça finalement, ça me remotive. Et peut-être c'est exactement ce dont j'avais besoin après ce mois de juin, pour arriver et me dire, ok, je peux le faire. Et en fait, ça me donne faim. Ça me donne faim, clairement. Ça me donne faim pour la suite.
Par rapport à la compétition a été longue. Elle a duré vraiment tout le long de la waiting période, du 1er au 8 juillet. Comment tu gères entre les temps de compétition, les temps d'attente? Ça doit pas être évident de garder du rythme, de garder du flux mental pour se projeter dans la compétition et en même temps avoir un jour off.
C'est vrai que c'était long parce qu'on est arrivé quand même le 28, et en fait dès le 28 il y avait déjà un QS et un Pro Junior juste avant, donc en fait les réveils tôt le matin pour faire le free surf avant la compétition, ça a commencé dès le début. Donc dès le 28 jusqu'au 8, on était bah, tous les matins à l'eau, réveil à 5h50 pour pouvoir surfer de 6h à 7h avant que la compète commence quoi. Donc c'était un rythme assez solide pour toute cette waiting période. C'était très long, et les jours off, en fait, on essaie vraiment de garder un rythme plutôt cool, mais en même temps avoir un bon rythme parce que voilà, je récup, mais aussi je me permets de surfer à côté et de faire des petites sessions en fonction de ce qui arrive le lendemain, en fonction des conditions, en fonction de ma forme et en fonction de la compétition, où est-ce que j'en suis. C'est vrai que pendant quelques jours, pendant la compète, d'ailleurs, j'étais un peu malade. J'ai eu une petite grippe. Donc, il y a un jour, ouais, par exemple, où est-ce que je suis restée carrément au lit. J'ai fait le free surf le matin et après, me demandais plus rien. J'étais au lit. Mais ça m'arrive souvent, voilà, les free surf le matin, en général, il fait froid. Je suis quelqu'un de très frileuse. Donc, pendant que je récupère, je suis sous la couette. Voilà, tout simplement. Il y a d'ailleurs Jorgane avec qui je logeais qui m'appelait la mamie parce que voilà, c'est à la base de thé et couette.
Jorgane, qu'on a beaucoup vu sur les photos ou en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup vu te soutenir sur la plage. Est-ce que ça c'est parce que bon, c'est en Afrique du Sud, donc je suppose qu'il devait y avoir peu de Français, mais du coup ça doit être sympa aussi ce petit soutien entre surfeurs.
Ouais, bien sûr, je regarde, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qu'on, voilà, on s'apprécie, on se soutient mutuellement depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et on a décidé de loger ensemble pendant cette étape et ça s'est super bien passé. C'était hyper sympa parce que bon, on a tous les deux un caractère assez différent, mais ça s'envoie des tirs, c'est marrant, c'est bon enfant. Franchement, c'était hyper cool. Et puis voilà, de pouvoir apprendre l'un de l'autre pendant les compétitions, c'est hyper important aussi. C'est les garçons, ils sont très inspirants parce qu'ils font pas beaucoup d'erreurs et ils sont hyper constants dans leur surf. Donc c'est hyper intéressant et hyper inspirant. Voilà, que ce soit Jorgane ou les autres surfeurs français, j'aime beaucoup voilà observer, regarder, essayer d'apprendre d'eux parce que voilà ils sont inspirants et j'ai envie et j'ai besoin de pouvoir soutenir aussi le surf français quoi.
Et si tu devais retenir un moment de la compétition, que ce soit un moment de surf ou un moment off que tu aurais envie de partager? Ça serait quoi?
Ce qui m'a vachement amusée et qui m'a fait rire, c'est finalement en fait on avait une petite routine, voilà le free surf le matin tôt, après on se fait le petit déj. Voilà, c'était vraiment maintenant on s'est à partir du moment où je commençais à passer quelques tours, on s'est dit cette routine on la garde jusqu'à la fin. Ça veut dire le petit déj, on prend le même jusqu'à la fin. L'heure du repas, c'est le même jusqu'à la fin. Et voilà, Yann, du coup, mon coach, il a dû prendre un bain tous les jours parce que c'était la routine. Il s'est pris un bain tous les jours. Allez hop, 5h30, il va au bain. Et après, bon, à 6h, je fais à manger. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange des pâtes avec des tomates. J'ai dû faire un soir des pâtes tomates et c'est devenu la routine jusqu'à la fin de la compète. Donc merci à Yann en tout cas de me suivre dans mes folies jusqu'au bout.
Donc ça c'était les petits moments off sympa à retenir. Ça marche. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, ils ont pu constater que j'appréciais particulièrement de compter les points et de jouer avec les classements. Donc, on va parler classement, Tessa, si ça ne te dérange pas.
Il en faut toujours un.
Et enfin, le relou de service. Donc, tu es actuellement 10e. Tu es passé de la 16e place à la 10e place, ce qui est très cool. Tu as 11 105 points. Et donc, cette 10e place, elle est loin d'être anodine parce qu'elle te place donc dans le top 10 requalificatif pour les Challenger Series de l'année prochaine, sans repasser par une qualification par les QS. Et on y reviendra un peu plus tard là-dessus. Et surtout, tu fais un joli rapproché sur le top 5 qui, lui, est qualificatif pour le CT. Tu es à 4760 points de ce top 5. Donc, on est à mi-chemin des Challenger Series. Il y a trois compétitions de passé, trois compétitions à venir. T'es plutôt sur un bon timing. T'es dans les clous, t'es encore dans le jeu. Ouais, plutôt sur un bon ratio. Et parce que j'ai poussé le vice un peu loin. Donc, sur les six compétitions à la fin, il y en a quatre qui sont prises en compte. Donc j'ai fait le calcul en enlevant les pires notes des participantes, et donc tu serais, en enlevant la pire note, des comptes de points, tu serais 9e à 2765 points de la 5e place. Donc ça serait, tu serais encore plus proche de ce top 5. Comment tu appréhendes ça? Là t'es clairement toujours dans le jeu. Après, en voyant un peu sur les années passées, on voit que bah, du fait qu'il y ait que 5 places à prendre et 6 compétitions, les filles qui prennent les 10 000 points de la victoire ont une grande chance, c'est pas systématique parce qu'il y a 6 compétitions, mais ont une grande chance de passer. Donc ça veut dire qu'il va falloir réitérer ce genre de résultats en compétition. Comment tu appréhendes tout ça? Est-ce que... Voilà, partage-nous aussi la satisfaction d'être à cette position. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça?
Bah, c'est vrai que ça inspire la confiance. Voilà, comme je le disais au tout début de cette interview, ça me fait vraiment du bien mentalement et en confiance. Ça fait vraiment, voilà, je me nourris de ça vraiment clairement. Donc c'est bien beau d'entendre ton coach ou ton entourage dire ah tu surfes grave, ah, c'est trop bien, ah, tu défonces et tout. Mais finalement voilà, quand il y a un résultat qui parle derrière, c'est ça la preuve réelle. Même si et voilà, on sait qu'en compétition c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent ou quoi que ce soit. Avoir un résultat, c'est quelque chose qui est marqué, qui se garde, et pour moi c'est ce dont je me nourris réellement. Donc voilà, arriver à la 10e place du classement, voilà, c'est une petite remontada tranquille. Je veux pas non plus me mettre la pression, je sais que ça marche pas trop avec moi la pression, donc j'ai envie de pouvoir voilà, être consciente, voilà, je suis proche, mais il y a encore du boulot à faire, il y a encore des étapes à faire. Donc pour moi, je m'y rapproche petit à petit et je reste consciente et je reste déterminée avec voilà, avec la dalle quoi.
Ouais. C'est vrai qu'en plus ce classement avec les deux moins bons résultats qui sont décomptés, c'est toujours un peu délicat à appréhender parce que suivant les moins bons résultats de chacune, ça fait, comme on le voit là, ça fait passer de la 10e à la 9e place, de 4000 points à 2000 points. C'est assez variable, donc c'est pas évident à appréhender. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'à mi-parcours, t'es dans le jeu, quoi. T'es clairement dedans. Et ça fait plaisir.
Ouais, c'est sûr. J'aurais aimé avoir un peu plus d'avance dès le début avec un meilleur résultat en Arabine. Je pense que ça aurait pu me faire grimper au classement, mais bon voilà, j'essaie de prendre un rythme et être bosseuse quoi.
et par rapport à ce classement, je dirais oui, pardon, vas-y.
Je disais, rien n'est fait jusqu'à la dernière étape, donc il faut y aller, il faut rester la tête froide jusqu'au bout quoi.
Et par rapport à j'allais dire aux filles qui sont dans le top 10 que tu as dû voir surfer, comment toi, si tu fais un petit jeu de comparaison, tu te sens comment toi par rapport par à ces filles-là? Tu dis que c'est possible que t'as le surf, ou tu dis qu'il y en a certaines c'est trop? Comment t'appréhendes un peu tout ça?
Bah c'est peut-être un de mes problèmes justement. Je déteste être comparée et je déteste me comparer. Même si parfois, voilà, on le fait par rapport à une vague et une autre, on doit le faire. Mais je déteste vraiment me dire « est-ce que je suis mieux qu'elle ? Est-ce que je suis moins bien ?» ou quoi que ce soit. Je sais qu'on a toutes un style différent, des atouts différents. Donc voilà, je me sens petit à petit un peu plus à ma place, voilà, si je peux dire ça. c'est pas encore le top, mais je vais essayer de petit à petit m'installer et trouver ma place en grimpant un peu plus et voilà.
Voilà, sur une compétition comme celle-là, tu bats une pensionnaire du CT, tu finis troisième, t'intègres le top 10. Là, normalement, la confiance et la légitimité, si c'est ce qui te fait défaut, ça, tu peux faire le plein de tout ça après cette épreuve.
Oui, c'est sûr. Mais on le voit souvent, faut pas être... Voilà, faut pas être trop confiant non plus, parce que d'une étape à l'autre, tu peux faire premier de la compète à dernier du premier tour. Donc voilà, faut jamais être reposé sur ses acquis. L'année est longue, donc tranquille, il faut savoir rester les pieds bien fermes sur la terre.
Top. C'est une bonne mentalité pour rester focus sur tes objectifs. La prochaine étape de ces Challenger Series, c'est en Californie, c'est l'US Open du 6 au 11 août, soit dans un peu moins d'un mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette vague? Est-ce que c'est une vague que tu connais bien? Est-ce que tu as déjà eu des résultats là-bas? Et comment tu vas préparer la compétition d'ici là?
Bah déjà, c'est difficile de me dire comment est-ce que je vais aborder la compétition, étant donné que j'ai eu une toute autre approche pour Balito et ça a marché. Donc c'est vrai que je suis un peu déstabilisée par rapport à ça. Est-ce que je me dis ah, est-ce qu'il faudrait que j'adopte une nouvelle approche de la compète? Est-ce qu'il faudrait que je prenne quelques petits trucs de cette compète pour la prochaine? Voilà, je suis encore en train de mûrir et de réfléchir là-dessus. L'US Open, voilà, c'est une compétition qui peut être assez grindy en termes de vagues. C'est une vague qui est assez compliquée. Faut être, je pense, assez fort techniquement. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Après, j'ai un très bon, enfin, j'ai des très bonnes planches, donc là-dessus, je me mets plus trop de doutes. J'ai déjà eu notamment des bons résultats quand j'étais jeune. J'ai fait championne du monde junior ISA à Oceanside, qui est un peu plus au sud, et j'avais fait aussi round of 16, du coup 8e de finale à l'US Open. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune aussi, donc c'est des petits trucs que je garde en moi. Voilà, c'est des petites choses qui vont me nourrir quand j'aurai quelques doutes, pour pouvoir me dire, ok, cet endroit, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelque chose où est-ce que tu peux te recentrer et te nourrir de ça, quoi.
Et à la suite de ce challenger, c'est le début des QS Europe, avec un enchaînement assez infernal, disons août-septembre. Est-ce que tu prévois de faire les QS? Comment tu vas appréhender un peu cette période? Je vais rappeler rapidement les dates. On a Lacanau du 13 au 18 août, donc avec l'US Open qui termine lui le 11. Ensuite, il y a Pantin du 27 août au 1er septembre, Santa Cruz du 4 au 8 septembre et Anglette du 17 au 22 septembre. Sachant que le 29 septembre, il y a retour du Challenger Series à Ericeira et ça enchaîne après au mois d'octobre. Donc là, il y a un gros enchaînement entre août, septembre, octobre, entre les QS Europe et les Challenger Series. C'est quoi ton plan pour toute cette période?
Alors, petite parenthèse, pour les filles, il n'y a pas Santa Cruz, donc c'est que un QS homme.
Ah d'accord.
Ça nous fait une petite pause supplémentaire, ouais, qui est vachement nécessaire dans cette période-là. On sait que c'est une période parce que on bouffe de la compète, on en bouffe, on en rebouffe, on en bouffe. Moi, j'ai fait l'an dernier, j'ai fait Final Day sur les trois compètes, Lacanau, Anglette, Pantin. J'étais lessivée à la fin. Franchement, on a fait que enchaîner. Que ce soit le final day, le lendemain reprendre la route pour ensuite le lendemain reprendre une autre compète. Mentalement, c'est dur, physiquement, c'est dur, émotionnellement, c'est dur. Après, je devais l'an dernier pour me requalifier sur les challengers. Cette année, en fonction de mon résultat à l'US Open, je vais essayer de me relâcher un peu et peut-être pas faire toutes les étapes. Lacanau, ça me plaît bien parce que voilà, j'y suis attachée sentimentalement parlant. Il y a mon coach qui est de là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont de là-bas aussi. Donc cet endroit, je l'aime bien, je me sens bien. Voilà, ça me fait plaisir d'y retourner chaque année depuis un nombre d'années. Et Anglette, c'est forcément, bon, bah, j'ai l'appartement ici quand je suis en France. Donc Anglette, je vais le faire aussi. Ce sera avec plaisir. Maintenant, il y a l'étape Pantine où je suis pas encore sûre. Je vais voir si je fais le marathon des QS européens ou pas, de manière complète bien sûr, parce que je vais en faire quelques-uns quand même. Si je dois, bien sûr je le ferai, sinon si je peux en choisir, esquiver un ou deux, je le ferai, quoi.
Et tu esquiverais en fonction du feeling ou du nombre de points, parce que Lacanau, c'est entre guillemets que 1000. Pantin, c'est pas un 3000.
Oui, Pantin, c'est un 3000. Donc c'est pour ça, ouais, qu'on est un peu obligé d'y aller. Après, voilà, si je suis dans le top 10 et confirmé entre guillemets dans le top 10, avec une grande avance, voilà, ou est-ce que si je suis dans le top 5 par exemple après Oceanside, après pardon l'US Open, peut-être que ça me permettrait de ne pas faire Pantin. Ça me permettrait, ouais, je me le souhaite aussi, hein. C'est voilà, je verrai. Après Pantin, c'est un endroit qui est plutôt cool, hein, mais c'est vraiment beaucoup, c'est chargé. Et j'ai vraiment envie de me focaliser, de me concentrer sur les challengers plutôt que les QS. Ce qui me semble logique, hein, mais bon. On verra si je suis obligée de faire Pantin ou pas.
Ce calendrier est pas évident parce que c'est gagner quelque chose au risque d'en perdre un autre ou au risque de tout perdre. C'est pas évident à gérer quoi. C'est deux tableaux
Le
et à chaque fois c'est et en
calendrier
plus à chaque fois il y a peu de place. C'est ça qui est insupportable chez les filles, c'est qu'à chaque fois il y a peu de place pour passer parce que même pour le QS c'est les trois premières qui passent, quatre premières. J'ai plus le truc en tête. Les trois premières, donc ça veut dire faut envoyer des compètes solides quand même. Et en même temps, faut viser un top 5 CS quoi. Donc c'est ouais. Ils vous facilitent pas la tâche les
C'est
mecs de
très
la
dur parce
WSL.
que ouais, le format est fait en sorte que c'est très compliqué. Mentalement, on est en train de se battre pour cette année sur les challengers, mais en même temps, on est en train aussi de se battre pour l'année prochaine, pour les challengers de l'année prochaine, mais aussi du coup sur les challengers de cette année pour le CT de l'année prochaine. Mentalement, c'est dur quand même, hein?
Ouais,
C'est
ouais,
beaucoup.
ça, je, bah oui, puisque de cette période-là se joue et la saison en cours et la saison prochaine, quoi. Donc c'est pas évident. Je me demande si les autres régions du monde sont logées à la même enseigne sur ce genre de truc. Je suis pas certain. On serait à regarder. C'est encore un petit favoritisme WSL.
La plupart des autres QS, il me semble, ils font ça l'hiver, donc pendant la saison off des Challengers. Donc voilà.
Ce qui est pas la même
Ce qui est
approche au
plutôt
final.
logique et oui. Mais après,
Ben
honnêtement, je ne me vois pas du tout faire une compétition en Europe l'hiver. Je galère
ouais.
déjà avec le froid sur les Challenger Series. Alors en Europe, l'hiver, faire une compète, ça serait vraiment très 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 difficile pour moi. Je suis sortie de ma zone de confort.
Ce serait la totale, quoi.
Soit le réveil pour sortir de la couette, soit pour mettre la combinaison, surfer avec la combinaison. Ouais, tout ça, déjà, c'est beaucoup trop dur pour moi.
Dans l'eau gelée, ouais, l'enfer, l'enfer.
Avec
pour
la barre à
finir,
la
j'ai
tête et
une.
tout, moi
Ah,
je.
pardon. Mais la cagoule, la cagoule.
Ben, j'ai pas mis encore et j'espère pouvoir gratter un peu plus d'années.
Du coup, pour finir, j'ai une question à la fois surfistique et un peu moins. Disons que la prochaine grosse échéance de surf, c'est les JO. Et du coup, ma question, c'est quoi ton programme pour ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que tu prévois? Tu prévois d'aller voir des épreuves? Tu prévois de suivre ça tranquillement à la maison? Tu prévois de ne pas du tout suivre ça? C'est quoi ton programme par rapport à cet événement mondial?
Bah, je suis quand même obligée de suivre ça. Ça va être une étape qui va forcément marquer l'histoire parce que c'est les JO, mais aussi de par son spot, c'est quelque chose qui était incroyable déjà à voir pendant le CT. Donc les JO, ça va être hyper intéressant parce qu'il y a différents profils, il y a différents athlètes. Voilà, même si j'ai les boules de paillettes, pour être honnête, voilà, je vais quand même suivre ça et puis. Voir ce qui se passe et cheer pour la France. Je vais essayer de voilà de donner mon énergie pour la
Yes.
France et en espérant de ramener des médailles, c'est bien sûr l'objectif.
Et est-ce qu'il y a d'autres sports qui te passionnent et pour lesquels tu as envie de suivre ces Jeux Olympiques en particulier? Il y a d'autres affinités sportives ou
Bah, il y a mon chéri qui vient des sports de combat, donc je pense qu'on va essayer de regarder et de suivre voilà, tous les autres sports de combat notamment, mais aussi voilà, y a plein de sports qui vont être intéressants à voir de par aussi l'infrastructure que Paris va offrir. Ça va être voilà, innovant et intéressant de voir ben, les athlètes dans la scène et tout. Donc je pense que ça va être voilà, quelque chose de mémorable et forcément la curiosité donne envie de regarder et puis après c'est le sport ça fait vibrer, s'il y a des retournements, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est pas que dans le surf qu'il se passe des choses incroyables, j'ai hâte de voir tout ce qui peut se passer lors de ces JO.
Cool. Eh ben, on va finir là-dessus, Tessa. Merci beaucoup pour le temps accordé encore une fois. Bonne préparation pour l'étape en Californie. On t'envoie toutes les ondes positives possibles. pour que tu puisses faire un beau
Moi, je suis
résultat.
heureuse.
Et voilà, on se
Merci.
retrouve, on essaye de, du coup, dans cet emploi du temps du mois d'août qui sera un peu fou avec tous les QS, on essaye de se retrouver un petit temps pour échanger, pour débriefer la suite de tes aventures.
Ça marche, on fait ça.
Ça marche. Merci, Tessa.
Merci beaucoup.
Salut.
Ciao.